Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, le titre du message que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est « Comment rendre ton monde meilleur ?» Et pour introduire cela, je voudrais dire quelques mots encore sur l'enseignement. On est ici encore dans un contexte de rentrée de début septembre. Et nous aussi, on a dit que c'est comme une saison nouvelle. On vit un peu au rythme de la société. Donc, on entend beaucoup parler de l'enseignement. Il y a de la connaissance qui se multiplie d'une façon exponentielle. Vous avez accès à énormément de choses. Mais l'enseignement est encore toujours quelque chose que l'une personne communique à une autre. Et donc, j'ai lu des choses intéressantes que je voudrais partager avec vous. Et donc, j'ai deux extraits de « Comment je vois le monde » par un monsieur qui s'appelait Albert Einstein. Alors, voilà une de ses citations. « L'enseignement devrait être ainsi. Celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. » Imaginez la révolution que ça produirait dans les écoles, si chaque élève viendrait comme ça en disant « Ah, voilà, le professeur, il va maintenant me transmettre un don inestimable. » Et on ne dirait pas « Oh non, demain, il va falloir aller en classe » ou des choses comme ça. Et tous ceux qui sont obligés par devoir religieux d'aller à l'église, ils disent « Oh non, on va encore prêcher, sermonner, etc. » Mais de recevoir comme un cadeau de Dieu. Maintenant, quelque chose va m'être transmis. Voilà donc ce qu'il déclarait. Une autre déclaration de lui, il disait « C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. » Alors là encore, on se replace dans chaque situation. Soit vous êtes enseigné ou des fois vous êtes enseignant. D'accord ? Nous on dit, le chrétien par exemple, il témoigne. Mais le chrétien, quand il parle aux autres, c'est aussi une façon pour les enseigner. Alors, soit on enseigne les enfants sur les choses de la vie, soit on enseigne les collègues parce qu'il y a une transmission du savoir, soit on enseigne aux gens certaines choses que nous connaissons de la parole de Dieu. Alors, dans ce rôle de professeur que chacun de nous peut avoir, mettez-y maintenant cet objectif pour vous-même en disant, quand je transmets quelque chose, je voudrais éveiller la joie de travailler et de connaître. Imaginez-le dans un contexte, dans n'importe quel contexte. Contexte de la vie familiale. La joie de passer l'aspirateur, par exemple. Quelle peut être la joie? Si je consacre du temps à ça, je ne pourrais pas faire autrement. Mais si vous avez le plaisir de dire c'est propre, il n'y a pas de la poussière partout. Ou d'autres choses, des choses pratiques. Vous savez, je ne veux pas le banaliser, mais il nous est dit que Jésus était prêt à souffrir en échange de la joie qui lui était réservée. Des gens normalement constitués et sains d'esprit ne sont pas prêts à souffrir. Aucun intérêt à souffrir. Il faut être déjà un peu psychologiquement atteint pour aimer souffrir. C'est une maladie. Mais donc, la personne qui accepte de souffrir, si elle est censée, ça veut dire qu'il y a une joie qui est derrière. Je renonce à quelque chose en vue de la joie. L'athlète renonce à certaines choses pour se préparer en vue de la joie, de la course, de la victoire, de plein de choses qui peuvent nous motiver. Donc pour nous aussi, se dire « Oh là là, il faut que j'étudie ceci ou cela, ou que j'apprenne », tout cela peut être perçu négativement comme une contrainte, sauf si on a en vue la joie, de dire « Ça va m'aider. Ça va m'ouvrir de nouveaux horizons. Dans ma vie chrétienne, ça va me donner de l'efficacité dans ma prière. Ça peut être une bonne motivation, ça. En disant, voilà, je prie, rien ne se passe. Alors peut-être, si j'apprends comment prier, il y aura un impact. Donc, voilà le rôle du professeur et de chacun d'entre nous, mais aussi, quand nous étudions la parole de Dieu, et quand moi, je vous prêche, je voudrais vous transmettre la joie de travailler, de connaître, d'accueillir, de recevoir ce don inestimable qu'est la parole de Dieu, qui ouvre notre esprit à des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Donc dans cette série que je voudrais partager de de message, c'était comment rendre notre monde meilleur. Et quand je dis notre monde, j'ai dit exprès notre monde pour que vous vous sentiez vraiment concerné. Parce que quand on dit le monde, c'est comme une espèce de chose étrange, bizarre, extérieure, qui concerne les autres. Non, c'est notre monde, ton monde, le mien, celui dans lequel je vis tous les jours. Je voudrais qu'il soit meilleur, je pense, normalement, c'est ce qu'on aimerait. Donc, quelle est notre part? Quel est notre impact? Pourquoi? Comment le changer? Et j'aimerais vous rappeler Actes 17, 6. Il est dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Voilà la réputation qu'avaient les groupes de premiers missionnaires, les chrétiens. Ils venaient bouleverser le monde. Ils changeaient la façon radicale que les gens avaient de voir les choses. Imaginez le monde antique comme il était. Avec la domination de l'Empire romain dans le monde méditerranéen, la situation de l'esclavage, la multiplication de toutes sortes de divinités. Et là, il venait bouleverser le monde. Les relations sociales, les relations hommes-femmes, de la façon dont ça... Tout était bouleversé, tout était différent. On disait, il annonce une nouvelle divinité. Des fois, il disait, non, c'est pas César qui est roi, mais c'est il parle d'un autre, Jésus est le roi, donc... Tout était bouleversé de l'ordre établi. Mais pour certaines choses, on sait que le monde n'a pas changé du tout. Il y a plus de modernisme, de technologie. Mais sinon, les choses sont encore pareilles. Alors, pourquoi ont-ils bouleversé le monde? Parce qu'ils étaient motivés et ils ont planifié. Ils avaient des objectifs. Et vous le voyez dans les lettres de Paul, des fois il disait, d'abord je vais aller ici, et ensuite je vais aller là, et puis je veux aller... Il nous décrit les objectifs qu'il allait. Il voulait aller jusqu'en Espagne. À un moment, il nous explique qu'il n'a jamais été, mais il avait planifié. Et dans d'autres moments, des Actes des Apôtres, on voit qu'ils ont dit, et maintenant, on voulait aller dans tel pays, mais l'Esprit de Dieu ne nous a pas permis. On avait planifié, on voulait y aller, et Dieu nous a montré, non, c'est pas cette direction. Donc, ils ont pris une autre direction. Et maintenant, c'était pas ça encore. Alors, mais toujours, ils étaient en recherche de dire où allons-nous, vers quoi est-ce qu'on se dirige. Donc, pour atteindre des objectifs, bien, il faut se fixer des objectifs. Non, on n'arrive pas par hasard à un endroit. Si c'est pas, bien sûr, vous pouvez prendre la voiture et vous verrez où ça vous conduit, mais c'est pas l'idée. Mais si vous voulez réaliser des choses dans votre vie, il faut qu'il y ait des objectifs. Ayez des buts à atteindre. Et même pendant les périodes de repos, de loisirs ou de vacances, vous pouvez toujours être en train de construire, édifier. Vous savez, entretenir, c'est mieux que réparer. Hein. Quand on se dit, oh, maintenant je ne fais rien, je laisse un peu tout de côté, etc. Après, j'y reprendrai. Non, il y a des choses, c'est mieux d'entretenir que de dire, oh, on fait des coupures et on ne s'occupe plus de rien. Et vous savez, il y a toujours des choses à faire qui ne sont pas forcément fatigantes. Pas penser, rien faire, ça c'est vraiment la chose idéale. Vous savez, on a subi dans notre pays un lavage de cerveau, je pense maintenant, je vais citer des noms, la Française des Jeux. Qu'est-ce qu'on a comme matraquage publicitaire? La Française des Jeux. Donc comme si le loto, gagner un loto, ça c'est vraiment la panacée, c'est le truc sub. Alors, c'est formidable parce que on n'aura plus rien à faire. Voilà, comme un objectif merveilleux. Quelqu'un m'a dit une fois, il a dit, si vous voulez taxer les pauvres, organisez une loterie. Parce qu'on vend du rêve aux gens, et tout le monde se dit, ah, si seulement c'était moi. Mais très peu en bénéficient, et donc l'ensemble des gens s'appauvrissent, et leur quotidien ne s'améliore pas du tout pour verser dans cette cagnotte, et pour qu'une personne puisse réaliser cette chose merveilleuse, c'est-à-dire de ne rien faire. Parce que c'est ça la publicité en fait. Même si vous pourriez dire, si j'avais de l'argent, je pourrais l'utiliser intelligemment ou même au bénéfice des autres. Mais en général, ce qu'on vous vend comme rêve, c'est, voilà, vous êtes quelque part sur une île paradisiaque, sur une plage et vous ne faites plus rien. Mais vous voyez, ce que je voulais dire, c'est, on peut avoir des activités qui ne sont pas forcément fatigantes, mais ça ne veut pas dire rien faire. Entre rien faire et les travaux forcés, il y a un juste milieu. Donc, ne soyons pas toujours à faire des extrêmes. Donc, et parmi la chose qu'on va développer un petit peu ce matin, c'est parmi ces sept choses que je voulais dire ces derniers temps, quel serait l'homme qui ne chercherait pas à rendre le monde meilleur? C'est comment on peut nous rendre notre monde meilleur, notre monde dans lequel on vit. Pas le monde seulement global, planétaire, mais mon quotidien, ma façon de vivre. Donc des autres choses qu'on verra par la suite, c'est, je les répète encore une fois, à force vous les retiendrez, moi aussi on en sera vraiment complètement habité, imprégné, être un créateur de richesses, laisser l'endroit plus propre que vous l'avez trouvé, être le sel de la terre et de la lumière du monde, apporter de la plus-value dans la vie des gens, être une source de bénédiction et manifester de l'amour. Donc ça, c'était juste pour, encore une fois, en remettre une couche de ces bonnes idées de Dieu, comment on pourrait impacter le monde positivement. Donc notre monde, on veut le transformer. Alors ton monde, il est bien ? Est-ce que tu es contente, satisfait ? Et pensons à cette question. Quel est l'homme ou la femme qui ne cherchait pas à rendre le monde meilleur ? Chacun d'entre nous devrait être habité par qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apporter quelque chose de positif dans ma journée, déjà dans ma journée, et ne pas être dans une attitude attentiste. Bon, là, aujourd'hui, je sais, ça va être lundi, ça va être, de toute façon, comment ça va? Comme un lundi, ça va être la mauvaise journée, donc on attend qu'elle se passe. Il y a des gens qui sont comme ça programmés, non? Que dans chaque journée, on puisse attendre quelque chose de bon. Et s'il le faut, on va changer quelque chose pour que ça puisse être possible. Donc, pour ça, je voudrais simplement qu'on pense à quelque chose, c'est imaginer. Imaginer que ça puisse être autrement. Même si vous avez un stéréotype, parce que vous l'avez vécu, lundi, je pense maintenant le lundi, mais admettons, le lundi, c'est votre mauvais jour. Mais si vous, lundi après lundi, sauf ceux qui sont en congé des fois lundi, mais lundi après lundi, il y a des choses qui se passent et que vous n'aimez pas. Faites toujours la même chose le lundi. Et donc, imaginez que votre prochain lundi soit différent. Est-ce que c'est possible, ça, d'imaginer? Normalement, rêver, imaginer, c'est toujours possible. On peut le faire. Un chanteur, il y a très très longtemps, il est décédé depuis, qui a chanté Imagine, d'accord ? Une chanson très 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 célèbre que beaucoup de gens aiment parce que ça commence avec un joli piano, là, Imagine, et puis alors les gens qui ne comprennent rien à l'anglais chantent Imagine, ah oh, c'est beau, Imagine. Alors Imagine, c'est, il imagine qu'il n'y ait pas de cieux, ciel, qu'il n'y ait pas d'enfer. C'est ça qu'il veut communiquer aux gens. Et vit au jour le jour, sans t'occuper des conséquences. En fait, c'est une chanson, avec un mot compliqué, qu'on pourrait dire subversive, qui cherche à entraîner les gens dans une imagination destructive et anti-Dieu. C'est une chanson totalement diabolique. Alors, je le dis, ça y est. Tant pis pour les gens qui aimaient cette chanson. Désolé pour vous, désolé pour le piano et tout. Mais le contenu de la chanson, c'est mauvais. C'est mauvais parce que, en fait, il ne résout aucune question, aucune solution n'est apportée. C'est juste, imagine, voilà, qu'il n'y ait pas de conséquences, qu'il n'y ait rien qui t'attend dans l'au-delà, et vis au jour le jour. Non, c'est pas du tout ce que la parole de Dieu enseigne. Nous disons, oui, de vivre intensément chaque journée que Dieu nous donne, mais pas en ne pensant pas qu'il y ait des conséquences, ni de doter totalement de notre pensée la pensée de l'éternité et que nous sommes dans un contexte bien particulier. Donc imaginer, rêver, c'est pas ça qui va changer les choses, mais c'est le début de quelque chose. Ça commence par là. Une pensée est semée, en bien ou en mal. La Bible dit en 1 Corinthiens 13, 13, que vous devriez connaître par cœur, hein, 13, 13, au moins la référence, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et nous, on a toujours tendance ici, et nous le faisons volontiers, à l'enseigner d'une façon successive. D'abord vient l'espérance. D'abord, il faut espérer quelque chose. Mais l'espérance, ça sert à rien tout seul. Ça sert à rien si ça n'évolue pas. On peut toujours espérer. J'espère qu'il fera beau demain. J'espère. Il y a des gens qui espèrent être guéris de leur maladie. Pendant toute leur vie, ils auront espéré. Et c'est un bon sentiment, mais ça ne les a conduits nulle part, nulle part. Parce qu'à un moment donné, cette espérance, c'est comme une image. Mais une image, ben, comme maintenant avec les moyens techniques, on peut même faire une image en trois dimensions. Vous avez l'impression que c'est une vraie personne, mais si vous passez la main, il n'y a rien. C'est des projections de lumière, et donc ça ne suffit pas. Il faut qu'à un moment donné, cette image se transforme en quelque chose de réel. Et donc, la foi, c'est ce qui donne la substance à cette image. La foi, ça veut dire que ça commence à prendre forme. Cette image qui n'était qu'un rêve, qu'une imagination, commence à devenir réelle pour nous avant qu'on arrive dans la réalité. Dieu est amour. L'amour, c'est la plus grande chose. Ça veut dire que l'amour, c'est l'action de Dieu. Ce n'est pas juste un sentiment ou une émotion ou « Ah, si tout le monde s'aimait, ça serait si beau », etc. C'est plus que ça. Ça veut dire que ça devient une réalité. C'est pour ça qu'il nous est dit « L'espérance et la foi un jour disparaîtront » parce que la réalité sera là. C'est comme nous, pour le moment, on peut espérer certaines choses de Dieu, on peut croire certaines choses de Dieu, mais finalement, il faut que ça nous conduise dans la réalité de l'amour de Dieu. Donc, notre monde, c'est sûr, certaines choses sont bien peut-être, si vous n'êtes pas dans une misère totale et dans le plus grand désespoir, mais on peut quand même vraiment chercher chacun à le rendre meilleur et mettre quelque chose en action, pas simplement attendre ou espérer qu'un jour, peut-être, ça ira mieux. Alors, juste encore avant de passer à cette dimension du royaume de Dieu, comment il se manifeste, la vision du système du monde. J'ai dit, nous, on s'encourage à rendre le monde meilleur, mais quelle est la vision du système du monde? Qu'est-ce qui est semé en nous? Vous vous rappelez, le diable est appelé le prince de ce monde. Il a une influence dans le monde, il fait des choses. Jésus a même dit, vous ne pouvez pas séparer actuellement le bon grain de l'ivraie. Ce n'est pas possible. Les deux choses poussent en même temps. Et le diable sème certaines choses ou pervertit les choses que Dieu sème. Et donc il y a la bonne semence aussi. Alors, c'est pour ça, soyez attentifs, qu'est-ce qui est semé en moi? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'accepte? Comme là, j'ai donné une illustration au niveau de la musique, ça pourrait être autre chose. Et qui, cette chose qui est semée en moi va finalement me pousser à faire quelque chose. Sans faire de jeu de mots, mais une transition. Qu'est-ce que j'ai laissé pousser? Parce qu'une semence, on peut aussi soit l'arracher à mauvaise herbe tout de suite, ou le laisser grandir. Et alors là, tout de suite, ça devient plus compliqué. Alors, j'avais déjà abordé avec plusieurs personnes quand on en avait parlé, mais je reviens encore une fois, le système du monde, à l'opposé de ce que nous venons de dire, au lieu de rendre le monde meilleur, c'est qu'est-ce que je peux profiter dans le monde tel qu'il est? Je ne m'intéresse pas de le développer, ni de l'améliorer, ni de quoi que ce soit, mais qu'est-ce que je peux prendre, accaparer, pour en profiter? Alors, profitez bien. Et dit, souvent on le dit nous aussi, hein, on est bien intentionné. Je souhaitais à l'autre, allez, passe un bon moment, t'as beaucoup travaillé, maintenant t'as ton repos, tes vacances, profites-en. Mais cette notion de profit est semée dans la vie des gens dès le plus jeune âge. Chercher à profiter de toutes sortes de choses. Dans les jeunes années, on est insouciant, on pense surtout à jouer, etc. Donc, peu à peu viennent les réalités de la vie et les responsabilités, qui sont des fois précipitées. Il suffit que, par exemple, certains enfants soient confrontés à un drame familial ou autre, et tout à coup, l'insouciance disparaît. Ou, par exemple, le décès d'un parent, ou quelque chose comme ça, qui les propulse dans la réalité. On a aussi des fois des situations sociales, où on a vu des situations d'enfants, de familles nombreuses, où les aînés, ils n'avaient pas le temps de jouer, parce qu'il fallait qu'ils s'occupent des petits frères et sœurs, etc. Donc, il y a normalement cette insouciance, et les jeunes années, on profite, on joue, etc. C'est normal. Et peu à peu devraient venir d'autres choses. Alors, vous avez d'autres choses qui sont semées. Par exemple, on va semer, faut pas se marier trop tôt, sinon après, on est lié. Donc, il faut d'abord profiter de la vie. Hein? Vous avez jamais entendu ça? D'abord, il faut profiter de la vie, tant qu'on est libre. Après, quand on est marié, on peut plus profiter. Ça, c'est le message qu'on veut vous transmettre. Et nous savons que finalement, sans faire le moralisateur, mais que c'est très mauvais pour la personne. Se disperser, avoir de nombreuses aventures, etc. Ça ne permet pas à la personne de grandir de façon mûre, émotionnellement, de s'attacher réellement à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Et sans parler de toute autre maladie, de sida ou d'autres choses. Mais il y a simplement, ça n'existe pas cette histoire de profiter avant. Et ensuite, on continue toujours dans le profit. Donc, profitez de vos vacances. Et puis ensuite vient finalement le profitez bien de votre retraite. Donc, les gens sont doublement angoissés. Est-ce que je pourrais prendre ma retraite? Je ne vais pas mourir avant de quelque maladie que ce soit. Et si je prends la retraite, est-ce que j'aurai suffisamment pour en profiter? Et ensuite, est-ce que je vais en profiter suffisamment longtemps? Et ensuite, est-ce que je vais en profiter suffisamment longtemps et en bon état? Donc, en fait, on cherche à profiter, et on est toujours un peu angoissé, toujours dans l'inquiétude de qu'est-ce que ça va devenir. Et là, tout à l'heure, Marie-Thérèse nous a partagé le texte de Tite, où il nous était dit que nous sommes appelés à vivre une vie sensée. J'étais impressionné parce que j'ai entendu ce verset de la vie sensée qui n'est pas dans d'autres versions où on parle des fois de vie de sagesse. Mais c'est bien d'utiliser aussi le mot sensé parce que la vie sensée, ça veut dire une vie qui donne un sens, qui prend du sens. Et dans 1 Samuel 12, 21, j'ai trouvé aussi que lorsque Samuel s'est adressé au peuple d'Israël, tout au début, il venait de choisir un roi, donc Saül était le premier roi, et Samuel a eu tout un discours, parce que dans un premier temps, il s'est senti rejeté, lui il était le prophète qui dirigeait la nation, c'était Dieu qui était considéré comme le roi d'Israël, et voilà qu'ils disent, non nous on veut un roi comme tout le monde, alors qu'ils étaient à part, c'est ça la sainteté, un peuple à part, on dit non finalement nous on veut faire comme tout le monde. Donc Samuel leur donne un certain nombre d'exhortations, et puis à un moment donné il leur dit au verset 20, n'ayez point de crainte, vous avez fait du mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Et au verset 21, ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant. Des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance. Parce que ce sont des choses de néant. Ça n'a pas de sens, ça ne mène nulle part. Et ça ne vous apportera pas finalement le profit que vous vouliez. Donc c'est quand même paradoxal et intéressant que de voir que le système du monde, tout ce qui relève du système du diable, va toujours tromper les gens. Dans toute leur attente, ils seront quand même déçus à la fin. Même s'ils y mettent tous leurs efforts, ils ne seront jamais satisfaits. Et là, c'est ma dernière citation de Albert Einstein du jour, et il nous dit, celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Voilà ce qu'il déclare. Donc, ça ne va pas profiter, on sera fondamentalement malheureux et ça ne marche pas. Donc, on a compris que le système du monde ne marche pas, le système du profit ne marche pas. Alors, on revient à notre première idée, comment rendre notre monde meilleur et comment faire pour qu'il y ait des bonnes choses qui se passent. Nous ne sommes pas destinés à occuper la terre inutilement. Et bien, quand je dis ça, c'est pas pour mettre une espèce de poids sur vous, de responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire maintenant si jamais j'ai passé cette journée et que je n'ai pas bouleversé le monde? Non, c'est pas pour ça, mais c'est juste pour comprendre le sens des choses. Nous sommes là pour une raison. Le Seigneur Jésus a utilisé dans Matthieu 25 la parabole des mines et des talents. Donc il l'a donné même à plusieurs reprises. Parce qu'on comprend que on ne va pas critiquer la Bible en disant « Ah mais là il a parlé de ça et là il n'a pas dit exactement la même chose ». Ben oui, parce qu'il disait les mêmes choses en plusieurs endroits. Et ceux qui l'entendaient, l'un le relevait de cette façon, l'autre d'une autre, mais le principe était le même. Un homme est parti, il a confié un certain nombre de choses à des personnes, puis il est revenu et a dit « Qu'est-ce que vous en avez fait ?» Certains ont fait fructifier, ont développé, et il y avait la fameuse dernière personne du jour en disant « J'ai eu peur, j'ai rien fait, je l'ai caché, je l'ai enterré ». Et à ce moment-là, non seulement il lui dit « Bah, c'est pas bien, t'as rien fait avec ce que je t'ai donné », mais en plus il accuse le maître en disant « Je savais que tu es un maître dur, tu récoltes là où tu n'as pas semé ». Et donc, il est dit, mais je te juge sur tes propres paroles à ce moment-là. Si tu le savais, tu aurais dû d'autant plus faire des efforts pour que ça fructifie. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer qu'il l'a enterré. Nous pouvons dire que nous sommes à l'image de la terre, chacun d'entre nous. Hein, nous sommes issus de la planète Terre. On est constitué aussi en grande partie d'eau, comme les 75% du globe sont recouverts. Donc, on est issu de la Terre, on est lié à cette planète, et on est un petit peu pareil. Donc, avoir enterré le don de Dieu en nous, ça veut dire on l'a mis en terre, on l'a mis en nous, mais on ne l'a pas fait sortir, on ne l'a pas développé, on n'en a rien fait. Et à ce moment-là, il nous est demandé, mais qu'est-ce que t'en as fait? Je t'ai donné quelque chose. Aucun de nous ne peut donc dire que moi je peux rien faire, j'ai pas de don, j'ai pas de talent, ça n'existe pas ça. Et à ce moment-là, le Seigneur dit dans cette histoire, il dit, et le serviteur inutile, jetez-le dehors. Le serviteur inutile, il est dehors. Le serviteur utile, il est dedans. Vous voyez, quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous devenez un serviteur utile. Les deux vont ensemble. On ne peut pas concevoir, je suis dans le royaume de Dieu, mais je ne fais rien. Je suis. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes destiné à être dehors. Les gens du dehors font ça, d'être inutile. Mais dès que vous êtes dedans, vous devenez utile. Et ce n'est pas une décision qui se prend au niveau du trône de Dieu, dans le ciel, etc. Voilà, toi tu seras utile, toi tu ne seras pas utile, etc. Non, la Bible nous dit clairement que vous pouvez choisir si vous voulez être des vases d'honneur utiles ou des vases d'un usage quelconque. Donc vous pouvez vous-même vous positionner et dire « moi je veux être un vase d'honneur ». L'honneur c'est quelque chose qui est... c'est une vertu, c'est quelque chose qui est formidable et en même temps quelque chose qui est rare parce que le profit complètement gommé ça, on est prêt à renoncer à beaucoup de qualités morales pourvu que ça puisse nous faire gagner. C'est-à-dire dans certaines civilisations, bah, par exemple ne pas tenir sa parole, c'est très grave, et dans d'autres, ça apparaît comme une façon de vous êtes rusé par exemple, vous arrivez à tromper les autres dans certains endroits, par exemple au Far West, eh bien les voleurs de chevaux ils étaient pendus, mais par contre du côté des Indiens, arriver à voler le cheval d'un ennemi c'était quelque chose qui était très très apprécié, ça voulait dire tu montres ta valeur. Donc selon le cas, vous avez des notions complètement différentes. Nous, en tant qu'Occidentaux, on trouve ça choquant et excessif qu'au Japon, quand ils ont perdu leur honneur, ben, ils procèdent au suicide rituel. Mais c'est une société qui veut prôner certaines valeurs. Donc, nous sans tomber dans des extrêmes, mais nous pouvons quand même dire, voilà, il y a des choses que nous ne devons pas perdre. Il y a des choses où nous devons être attentifs, si nous sommes dans une société décadente, c'est-à-dire qui perd des valeurs, de voir quelles sont les valeurs que nous voulons entretenir. Par exemple, l'honneur, je crois que c'est quelque chose de très important. Et ici, la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, et versets 19 et suivants, « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, s'abstenant de ces choses qui étaient énoncées avant, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Et là, j'anticipe déjà sur ce que je vais dire dans un instant, les bonnes œuvres. Parce que c'est ça, finalement. On veut rendre le monde meilleur, va être appelé à faire de bonnes œuvres. On a parlé d'honneur, vase d'honneur. Dieu a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et c'était dans un contexte aussi de 1 Samuel où le sacrificateur Élie, pas le prophète, le sacrificateur, ne respectait pas certaines choses par rapport à sa fonction de sacrificateur. Et Dieu lui a dit ce reproche. Donc, pour nous, engageons-nous à faire des choses qui vont amener des transformations en nous-mêmes et autour de nous. Il y a une chose dans la vision du royaume de Dieu, c'est que nous devons réaliser que nous n'avons rien à faire pour gagner l'amour de Dieu. C'est important dans le contexte de tout ce que je veux encore rajouter, c'est-à-dire aucune bonne œuvre ne va rien changer. Pourquoi je dis ça ? Parce que là encore, par notre éducation ou par notre vécu, nous pouvons être dans une situation où ceux qui n'ont pas reçu d'amour vont chercher pendant toute leur vie à être aimés. Et la seule façon qu'ils imaginent qu'on peut être aimé, c'est en faisant plaisir aux autres. Beaucoup d'enfants qui ont des carences au niveau de l'amour de leurs parents, ils vont tout faire pour leur plaire. Mais il y a une grande différence entre être aimé et faire plaisir. Mais pourtant, on va donc tout faire. Donc si on est avec ce genre de pensée, on va se dire, pour que je puisse être aimé de Dieu, il faut que je lui plaise. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu ? Et les gens peuvent faire des choses stupides croyant plaire à Dieu. Parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est ne pas plaire à Dieu, c'est aimer de lui. Tu sais, ils prennent les choses à l'envers. Donc, il faut d'abord les assurer de l'amour de Dieu pour eux, et ensuite, ils peuvent librement lui faire plaisir et influencer le monde de façon positive. C'est pour ça que, même si c'est des choses qu'on a dit et redit, Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle. On ne peut rien y changer. On ne peut rien y ajouter et on ne peut rien y enlever. Il nous aime tel que nous sommes. Et on peut dire aussi que dans le monde, Jésus ayant tout accompli, il a d'un seul coup effacé tout ce qui était mauvais dans le monde. Même si nous le voyons au quotidien de nos yeux, mais il l'a effacé. Il a réellement, il n'a même pas équilibré la balance. Vous le réalisez ça ? Mais il a effacé tous les effets du péché qu'il y a eu pendant des milliers d'années sur terre. Il les a effacés et il a apporté quelque chose qui est complètement différent. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous mettre la pression en disant « Qu'est-ce que je vais faire pour rendre ce monde meilleur ?» Ça penche tellement du côté du mal. Si je fais ma petite bonne action quotidienne, est-ce que ça va vraiment changer le monde ? Non, c'est pas ça que nous devons avoir à l'idée. Mais de réaliser que nous sommes dans une position où Dieu nous aime et à ce moment-là, on est libre maintenant de faire du bien. Hébreux 6, 10, en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous voyez, ce n'est pas juste votre travail, c'est le travail de votre amour. Qu'est-ce qui vous a motivé pour agir ? Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus. Et je ne vais même pas dire que vous rendez encore aux saints en parlant que de l'Église. Non, on est appelé à rendre des services, bénir d'autres personnes. Donc, ma conclusion est tout simple, agissez, faites. Cette fois-ci, j'ai encore une autre citation qui est souvent utilisée par des hommes politiques, parce qu'elle a été faite par un homme politique. C'est M. Edmund Burke, qui est un homme politique et philosophe irlandais du XVIIIe siècle. Il a dit... Il suffit que les hommes de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe. C'est pour ça que vous l'avez peut-être déjà entendu, mais ça a souvent été repris. Bon, je répète encore une fois, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe. Et Dieu nous a dit par l'apôtre Paul, Éphésiens 2, 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. » pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les scouts avaient leur principe de la bonne action. Hein. Voilà, il fallait qu'ils fassent leur BA quotidienne, aider quelqu'un, rendre un service ou faire quelque chose. Moi, je trouve que c'est bien. Eh bien, nous faisons notre BO quotidienne, bonne œuvre. C'est le défi que la parole de Dieu nous lance. Éphésiens 2, 10, Dieu a préparé de bonnes œuvres. Il les a préparées d'avance pour que nous les fassions. Donc voilà, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai fait ma BO aujourd'hui ? Et donc faites votre check-up, voyez un peu qu'est-ce que je peux faire pour faire cette bonne œuvre. Et puis ça va vous entraîner dans toutes sortes de choses. Mais prenez cette décision maintenant. C'est tout simple, prenez une décision. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Elle changera votre vie et votre monde. C'est une nouvelle façon d'aborder les choses. Vous n'allez pas courir après le profit, mais vous allez voir que vous rentrez dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.